Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Pascal Masirika pour les journaux.
Les titres du journal, plus de 300 millions de dollars américains échappent par an au trésor public en RDC suite à l'exportation frauduleuse du cobalt dans les Grands Katanga. Dénonciation faite aujourd'hui à Kinshasa par la sénatrice Flore Moussendou. Le ministre de Mines, Martin Kabweloulou, dit ne pas être au courant de cette situation et promet d'enquêter. 6 morts et 7 blessés, bilan des affrontements d'hier dimanche au Nord Kivu entre les FARDC appuyés par les casques bleus de la MONUSCO et la coalition des Mai Mai à Boulambo-Issalé dans la chefferie de Bachou. La fondation Mo Ibrahim a publié aujourd'hui à Kinshasa son indice de 2017 sur la gouvernance en Afrique. La RDC est 48e sur 54 pays africains, évalué avec 35 points sur 100. Madame Ba Diallo, la porte-parole de cette fondation, est l'invitée de Radio Kapi. Madame, Messieurs, bonsoir. Plus de 300 millions de dollars américains échappent chaque année au trésor public en RDC sur l'exploitation du cobalt dans les Grands Katanga. Sur place, des entreprises minières fabriquent des briques avec du cobalt et les exportent frauduleusement en les déclarant comme des matériaux de construction. Dénonciation faite à Kinshasa ce lundi par la sénatrice Flore Moussendou dans une question orale avec débat adressé au ministre des Mines. En réaction, Martin Kabweloulou affirme qu'il n'est pas au courant des faits rapportés et promet de prendre des mesures appropriées. D'autres précisions avec Michel Kifindangoy.
Dans ces éléments de réponse, le ministre des Mines rassure que ses services sont bel et bien déployés et contrôlent l'exploitation minière de l'extraction à l'exportation. Martin Kabweloulou promet cependant de diligenter un audit pour mettre fin aux allégations d'exportation frauduleuse du cobalt.
Une société minière qui exporte en désignant comme nature de marchandise exportée matériaux de construction et que ces matériaux passent sans que les services ne les arrêtent, 15 jours d'ailleurs c'est beaucoup. Cette semaine ici, nous allons prendre des mesures là. Dessus. Ça, je vous le promets.
En réaction, le sénateur Flore Moussendou invite le ministre Martin Kabweloulou à mettre fin à cette fraude pour que les 300 millions de dollars détournés chaque année soient désormais déversés au trésor public.
Les réponses du ministre ont rencontré mes attentes, comme j'ai dit. Je savais qu'il viendrait me dire qu'il n'était au courant de rien. À tort ou à raison, c'est pas mon problème. Au moins maintenant, il est au courant. Mon objectif, c'est que ça soit corrigé et que l'État entre dans ses droits et que ma population touche sa part.
Le sénateur Flore Moussendou menace donc de transformer sa question orale avec débat en interpellation si le ministre de Mines ne prenait pas des mesures qui s'imposent dans les 15 jours.
Merci Michel Kifindangoy. Politique encore, le Premier ministre de la RDC a déposé cet avant-midi à Kinshasa le nouveau projet de loi électorale au bureau du président de l'Assemblée nationale pour examen et adoption dans les deux chambres du Parlement. Obe Minaku a indiqué à l'occasion que ce projet de loi sera examiné en priorité dans les 25 jours qui restent avant la fin de la session budgétaire. Bruno Tshibala-Nzenze a indiqué qu'il s'agit là d'un grand pas des géants vers les élections. Il est au micro de Michel Kifindangoy.
Avec l'adoption de ce projet de loi, nous aurons élagué une contrainte importante dans chronologie calendrier pour les élections générales du 23 décembre 2018. Je pense qu'un pas important vient d'être franchi dans la mise en œuvre de l'accord et le cap qui est mis sur les élections comme terminal processus que nous avons engagé pour régler la question crise politique qui a sévi dans notre pays avec les élections du 23 décembre 2018. Pour ce qui est des innovations, elles sont nombreuses. Il serait fastidieux de les énumérer ici, mais ce qu'on doit retenir, c'est que nous avons, avec ce nouveau projet de loi, essayé de rationaliser notre système électoral de sorte que, avec les élections du 23 décembre 2018, que les choses se passent avec la rationalité la plus grande et dans la transparence la plus plausible.
L'actualité, c'est aussi l'ouverture aujourd'hui lundi à Kinshasa d'un atelier de 2 jours organisé par la CENI et ONU Femmes. Objectif visé, promouvoir la participation des femmes au processus électoral en RDC. À cette occasion, sera également actualisé le plan de mise en œuvre de la stratégie genre et élection de la CENI. Prennent part aux assises plusieurs membres des associations féminines de la RDC. La chargée de programme sur la participation politique et le leadership féminin à ONU Femmes appelle à la participation des Congolaises au processus électoral suivant le calendrier publié récemment par la CENI. Catherine Odimba, interrogée par Paul Matendo.
Au-delà de tout l'appui que les différents acteurs pourraient apporter pour plus de participation des femmes, nous avons surtout besoin des efforts collectifs des femmes dans un élan de mouvement féminin fort, dans un leadership fort qui puisse permettre à ce qu'on ait un changement dans le domaine des résultats de la participation des femmes et du leadership féminin. Par rapport à ce plan, nous nous attendons à ce qu'il y ait une mobilisation des acteurs. Les acteurs, ici j'entends la société civile, les agences du système des Nations Unies, les partenaires techniques et financiers, la CENI elle-même, les acteurs institutionnels, pour appuyer la mise en œuvre de ce plan stratégique qui en lui-même va appuyer la participation des femmes à travers différentes composantes.
Et puis la Fondation Mo Ibrahim a publié ce lundi son 11e indice de gouvernance en Afrique. Dans ce classement de 2017, la République démocratique du Congo a atteint le score de 35 points sur 100 en gouvernance globale, se classant ainsi 48e sur 54 pays du continent. C'est ce que nous explique Daniel Tambizoni.
Ce score que réalise la RDC est inférieur à la moyenne africaine qui est de 50,8 points sur 100, également inférieur à la moyenne régionale pour l'Afrique centrale qui est de 42,6 points sur 100. Dans les détails, la RDC a réalisé son meilleur score de catégorie en développement humain pour 47,6 points sur 100 et son score le plus faible en sécurité et état de droit, soit 28,2 points sur 100. Aussi, la RDC a réalisé son meilleur score de sous-catégorie en santé pour 65,5 points sur 100 et son score le plus faible en infrastructure, 15,4 points. Selon cet indice 2017 Mo Ibrahim, les progrès de la RDC en matière de gouvernance globale au cours de la dernière décennie résultent de l'amélioration de 2 des 4 catégories. Il s'agit du développement économique et du développement humain. La Fondation Mo Ibrahim fait savoir aussi que les données prises en compte couvrent la période allant de 2006 à 2016, soit 10 ans. 100 indicateurs ont été pris en compte. La Fondation Mo Ibrahim est une fondation africaine créée en 2006. Son objectif est de placer la gouvernance au centre des discussions sur le développement africain.
Daniel Tambizoni sur Radio Okapi. La Zambie a levé ce week-end de la suspension du transit de marchandises vers la République démocratique du Congo. C'est le résultat d'une réunion tenue vendredi dernier à Lusaka entre une délégation congolaise conduite par le ministre du Commerce extérieur et les autorités zambiennes. Pour mémoire, la Zambie avait interdit l'entrée des marchandises en RDC au motif que les autorités du pays avaient suspendu l'importation du ciment, des fer à béton et du sucre. De précision avec le vice-ministre des Affaires étrangères qui était de la partie, Agé Matembo, s'est confié à Paulin Munanga.
Le 10 novembre, la Zambie, de manière unilatérale, en violation des dispositions pertinentes consacrées dans l'Organisation mondiale du commerce, qui stipule que les États membres doivent contribuer à la fluidité du commerce, mais la Zambie a bloqué sans aviser les transits vers la RDC sous prétexte que la RDC avait pris une mesure interdisant toute importation des produits en transit passant par la Zambie. Par rapport à ça, nous étions obligés de prendre la décision de nous rendre là-bas sur instruction express du président de la République. Nous avions dit aussi à la Zambie qu'il y avait mauvaise interprétation de nos décisions. La mesure a été levée et les camions ont commencé à circuler dans tous les deux sens. Parce qu'il y avait plus de 2000 camions qui étaient stoppés du côté Zambie, plus de 2000 autres camions stoppés du côté congolais. Et vous voyez, le manque à gagner est énorme.
Au Autre nouvelle, au Nord Kivu, les FARDC appuyés par les casques bleus de la MONUSCO ont affronté hier dimanche une coalition des Mai Mai à Boulambo-Issalé dans la chefferie de Bachou. Le bilan dressé par le porte-parole des opérations Sokola 1 Sud fait état de 6 morts et d'au moins 7 blessés. Le lieutenant Jules Ngongo est joint par Sekombi Katondolo.
Signalons que les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis en déroute une coalition des Mai Mai hier, donc à Boulambo-Issalé, où lors de ces accrochages, les bilans fait état et des éléments FARDC sont tombés sur les sangs d'honneur. Et du côté de leur coalition, 4 Mai Mai ont été tués par le feu de l'armée régulière et d'autres blessés. Il y a 4 blessés du côté Mai Mai et 3 autres blessés du côté armée régulière. Depuis hier, la situation est sous contrôle de l'armée loyaliste et ce matin, la population vague librement à ses occupations. Et sur place, le commandant des opérations, Sokola ainsi chargé des opérations de renseignement, a dépêché toute une équipe pour pacifier la zone.
Non loin de là, au sud Kivu, la cité de Kilembwe, à l'ouest du territoire de Fizi, est occupée depuis dimanche par la coalition des miliciens commandés par Yakutumba. L'attaché de presse militaire de la province du sud Kivu affirme que les loyalistes se sont retirés tout simplement de cette cité pour éviter le bain des sangs. Aucun bilan officiel n'est encore disponible pour l'instant, mais des sources indépendantes parlent d'un mort côté FARDC. À Uvira, le récit de Fiston Goma Mayabala.
Les combats ont commencé vers 16h locales lorsque la coalition de Mai Mai, Malaika et Yakutumba ont attaqué l'état-major des FARDC situé près du bureau administratif du secteur à Kilembwe. Un militaire a été tué dans cette attaque. Des sources sur place confirment que les assaillants, bien armés, ont tiré à la bombe et à la mitraillette pour déloger les troupes gouvernementales avant d'occuper la cité. Le chef de secteur de Luleng, Théophile Mpianawa Kayumba, affirme que les coups de feu entendus ont créé la panique et poussé certains habitants à fuir. Une partie s'est dirigée vers Katupu, une autre vers Lushilo et vers les territoires des Mwenga voisins. Mais une bonne partie est restée terrée chez elle dans la cité, dit la même source. Du côté de l'armée, les porte-parole de la 33e région militaire au sud Kivu, le major Louis-Claude Chimwanga, assure que les troupes gouvernementales préparent une contre-attaque pour reprendre la cité. L'armée régulière se serait retirée vers Mayamoto sur la route vers Salamabila à 25 km de Kilembwe avec l'essentiel de son arsenal militaire. D'Ovira Fistongo Mamayabala, Radio Kapi.
Fin hier dimanche, à Kalemi, du festival dénommé Yaweze Kana 2, organisé par l'ONG Search for Common Ground avec l'agence américaine USAID et la MONUSCO. Pendant 2 jours en effet, des artistes venus du Haut-Katanga et du Sud-Kivu se sont associés à leurs collègues de la province et du Tanganyika, et cela pour procurer du plaisir à des centaines d'habitants rassemblés au stade de Sendwe. Le compte-rendu d'Expedi Mwambamubi.
2 jours de musique et de danse, 2 jours surtout pour faire passer le message Vidiana Amanisasa, ce qui veut dire les jeunes, il est temps de faire la paix. Le directeur pays de Search for Common Ground insiste.
La paix a une seule couleur. Nous sommes convaincus que ce processus va aboutir à une paix très durable.
Pour sa part, le gouverneur de province, Richard Ngoï Kitangala, invite les jeunes à bannir la violence.
Stop à la violence. Il est l'heure de construire la paix. Avec convenu ensemble de développer la culture du dialogue, en bâtissant la confiance mutuelle.
Sensibilisation et action de développement, c'est l'appel de Jacob Mogheni, le chef de bureau de la MONUSCO. Les populations éprouvent des difficultés. À tous nos partenaires, je demande de faire non seulement la sensibilisation, mais aussi quelques projets de développement. Les organisateurs du festival ont invité les artistes Zembela et Fichuan de Lubumbashi et Sainat, la Cléopâtre de Bukavu. Ils se sont joints à leurs collègues du Tanganyika. Kalemi, Expedi Mwambamubi, Radio Kapi.
Ce lundi 20 novembre 2017, c'est la journée internationale des droits de l'enfant, thème retenu cette année, pour chaque enfant des rêves. Ici à Kinshasa, quelques enfants de la capitale défavorisée ont donné leurs avis sur ce thème. Ils sont interviewés par Jean-Pierre Elali Koko.
Je vais devenir footballeur ou bien mécanicien.
Je vais devenir ingénieur. Ingénieur. Et pour devenir ingénieur, qu'est-ce qu'il faut faire?
Je n'ai pas de moyens pour étudier. Je suis seulement avec maman, papa et Anna.
Depuis le 20 novembre 1989, je dois à un nom, à une nationalité et à une identité. Je dois d'être protégé, d'être traité avec humanité.
De devenir un avocat.
Un avocat?
Oui.
Et tu sais ce qu'on doit faire pour devenir un avocat?
Bon, moi je ne connais pas parce qu'il n'y a pas de possibilité d'étudier. Bon, qu'est-ce que moi je dois faire?
Et pourquoi vous êtes ici?
Je suis ici, j'ai venu à Kinshasa, j'ai quitté d'abord notre village pour chercher ici. Mais ici, donc, nous avons trouvé du mal.
Actualité, Afrique Monde.
Et maintenant les nouvelles de l'étranger. Le secrétaire général des Nations Unies s'est dit aujourd'hui horrifié par les révélations récentes de la présence des marchés aux esclaves en Libye. Antonio Guterres affirme que ceux qui en sont à l'origine pourraient être traduits en justice pour crimes contre l'humanité. La semaine dernière, en effet, un documentaire choc diffusé sur la chaîne américaine CNN avait révélé l'existence de ce marché aux esclaves près de Tripoli, vivement dénoncé en Afrique et en Europe. Guterres a demandé par conséquent aux autorités compétentes d'enquêter au plus vite sur cette affaire. Il dit avoir demandé déjà aux acteurs onusiens compétents de travailler activement sur ce sujet. Le vice-premier ministre du gouvernement libyen d'Union nationale a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une enquête. Au Zimbabwe, le parti au pouvoir veut engager dès demain mardi matin la procédure de destitution du président Robert Mugabe et qui a ignoré le week-end les appels à la démission formulés par sa propre formation politique. La ZANU-PF avait retiré hier dimanche à son chef historique toute fonction dans le parti et menaçait même de le destituer s'il ne démissionnait pas ce lundi à midi. L'ultimatum ayant expiré aujourd'hui, le parti au pouvoir s'apprête à en tirer les conséquences. Selon la constitution zimbabwéenne, l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent engager au plus vite à la majorité simple la révocation pure et simple du président pour faute grave, manquement, violation délibérée de la constitution ou incapacité. Une commission d'enquête conjointe a été mise en place à Harare au Zimbabwe pour formuler une résolution de destitution de Robert Mugabe qui doit être approuvée à la majorité des deux tiers. Enfin, au Nigeria, des combattants du groupe djihadiste Boko Haram ont tué 6 agriculteurs dans le nord du pays. L'attaque a eu lieu hier dimanche après-midi près du village de Lawanti dans les environs de Maiduguri, la capitale de l'est de Borno, épicentre de l'insurrection sanglante qui a été menée depuis 8 jours par les groupes islamiques djihadistes. Les habitants étaient partis cultiver dans leurs champs lorsqu'ils sont tombés sur 7 combattants de Boko Haram à moto, selon une milice civile qui lutte contre les djihadistes aux côtés de l'armée régulière.